monde a changé. Et le monde change. Si la Poste ne change pas, bah, quelque part, nous allons devenir un musée. Regardez certains films d'il y a 20 ans. Vous ne connaissez plus rien. Ni les supermarchés qui n'existaient que peu, ni vous connaissez, sauf vous reconnaissez le bureau de poste. Et donc, vous voyez, simplement on sait qu'aujourd'hui, ça ne correspond plus tout à fait aux attentes des gens. Donc ce plan de restructuration pour lequel nous allons consacrer en 2 ans 770 millions d'euros, ce qui ne s'est jamais vu à la Poste, va être une restructuration totale du bureau de poste en liaison avec les élus, bien évidemment, avec le personnel de la Poste et avec nos clients, nos usagers. Tout ça, bien sûr, en favorisant le service public auquel nous sommes tant attachés.
Oui. Alors, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, les oreilles loin du front. Et donc, on reçoit ce soir Philippe Cornelis du secrétariat fédéral de Sud PTT qui vient nous parler de la privatisation de la Poste et des mobilisations contre cette privatisation et qui va nous dire qui on vient d'entendre.
Bah, on vient d'entendre Christian Cozard qui a été directeur du courrier et qui donc a lancé un grand plan de restructuration des centres de tri. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y avait 100 centres de tri à peu près. Il n'y en aura que 45 dans 2 ou 3 ans, avec ce que ça suppose de mobilité des personnels, de suppression d'emplois, etc. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, une lettre qui est déposée dans les Hautes-Alpes, elle va à Marseille pour revenir dans les Hautes-Alpes et être distribuée dans les Hautes-Alpes. C'est très, très écologique. La Poste se félicite d'être écologique. Et ben, on voit le résultat. C'est concentration maximum des services, en général sur les métropoles, pas toujours, mais sur les métropoles. Et donc, désertification et des zones rurales. Alors, ensuite, c'est l'extrait qu'on a entendu. Il a été directeur de l'enseigne. Et à l'enseigne, il a voulu transformer les bureaux de poste en boutique, c'est le concept qu'il a développé. Et donc, c'est pour cela que dans les bureaux de poste, on trouve parfois un peu de tout, des cartes postales, des colis fichets, un peu n'importe quoi. Ça rapporte pas beaucoup à la Poste. Le chiffre d'affaires, c'est 19 millions d'euros, je crois, en 2008. Alors que le chiffre d'affaires de la Poste en général, c'est 20 milliards d'euros. Donc, en fait, c'est du personnel pour pas grand-chose, alors qu'il y a des queues, par ailleurs, pour les services de base. Il y a des queues à la Poste.
Oui, parce que moi, pour préparer consciencieusement cette émission, cet après-midi, je suis donc allé à la Poste acheter des timbres, chercher un recommandé et retirer un peu de sous de mon livret. Et alors, il y avait une nouvelle organisation, là. Il y avait, c'est comme chaque fois, tous les 2-3 ans, il y avait donc du nouveau mobilier et moins de guichets avec moins de monde derrière. Donc, on a l'impression que c'est... qu'est-ce qui se...
Alors, ce que veut faire la Poste, là, y compris en modernisant... Enfin, la Poste, elle parle toujours de moderniser et tout est merveilleux avec les usagers, avec le personnel. Voilà, mais la réalité, elle est un peu autre. Et ce que cherche à faire la Poste à cette étape, c'est automatiser au maximum les guichets des bureaux de poste en présentant d'abord, quand vous rentrez dans le bureau de poste désormais, vous devez avoir devant vous des automates pour répondre aux opérations de base de la Poste, et c'est, y compris pour vous faire payer le RMI, par exemple, ou un certain nombre de prestations sociales, puisque c'est quand même un des grands rôles de la Poste, c'est de payer les prestations sociales aux usagers. Et puis, c'est ensuite seulement que vous allez découvrir encore quelques guichetiers et surtout de plus en plus de conseillers commerciaux, de conseillers financiers, pour essayer de vous arracher le maximum de fric. Voilà. Et ça passe relativement mal parce que bon, beaucoup d'usagers, même si ça peut rendre les automates, ça peut rendre au service, hein, bon, il n'y a pas de, soucis là-dessus, mais les usagers ont parfois besoin de discuter d'opérations un peu compliquées. Et là, il va y avoir de moins en moins de monde pour le faire. Et il y a eu un conflit au bureau de poste de Paris-Château-Rouge, dans le 18e arrondissement, de 3 semaines, où, justement, en raison de cette nouvelle réorganisation, il supprimait 6 emplois. Et donc, les guichetiers se sont dit, non, ce n'est pas possible avec les usagers et les queues qu'on a. De toute façon, même avec les automates, on ne réussira pas à rendre le service qu'on rendait jusqu'à présent, qu'on rendait déjà avec difficulté. Et là, ça va être impossible à rendre. Donc, le conflit a duré 3 semaines. Le 21 septembre, il y a eu un départ en grève illimitée sur pas mal de guichets parisiens. Mais disons, la grève s'est essoufflée assez rapidement. Donc, eux étaient toujours en grève en début de semaine. Et puis, hier soir, la Poste a cédé. C'est-à-dire que la Poste a renoncé à son projet.
Et donc, ils gardent les 6 emplois.
Ils gardent les 6 emplois. Je crois qu'ils gardent l'objectif qui était l'objectif en début d'année, donc de suppression d'un certain nombre d'emplois, mais ils ne réorganisent pas le bureau et donc ils laissent en place les emplois tels qu'ils étaient prévus à l'origine. Donc, et c'est à souligner quand même parce qu'aujourd'hui, on a souvent l'impression à la Poste, au niveau du personnel, d'être face à un mur. Et les luttes sont relativement difficiles. Et là, c'est quand même un succès important. Il faut dire que les collègues étaient très, très accrochés à leur métier, à leurs usagers, parce que je pense que c'est quelque chose qui les faisait tenir de façon importante. Et il y a quelques années, ils avaient déjà mené un conflit aussi assez long.
Donc, une première petite victoire dans ce combat donc, contre la privatisation de la Poste, l'augmentation du capital, l'ouverture du capital. Ce n'est pas très clair tout ça. Est-ce que tu nous expliques un peu mieux où on en est exactement ?
Repartons peut-être des PTT.
Je ne sais pas s'il faut repartir si loin, parce que c'est vrai que la privatisation, ça fait longtemps qu'on en parle. On est dans un contexte depuis, 25 ans de privatisation des entreprises nationales contrôlées par l'État et des services publics en particulier. Et la Poste fait partie du lot, je dirais, après France Télécom, après EDF et GDF. Aujourd'hui, c'est plus particulièrement le tour de la Poste. Voilà. Alors, on a connu des histoires, puisqu'on avait une histoire commune avec France Télécom. On était l'administration des PTT. En 1990, il y avait eu une loi d'un gouvernement de gauche avec un ministre qui s'appelait Quilès, qui a séparé les télécoms, France Télécom et La Poste, et puis qui nous a...
Non, mais justement, sur cet épisode-là, ça a été justifié comment à l'époque ? L'Europe
Oui, c'est ça. Alors, à chaque étape, c'est toujours la même chose. Il faut être plus moderne, il faut moderniser. Hein. On sait bien que... Vous êtes des archaïques, c'est le discours qu'on entend dans toutes les boîtes et donc il faut changer. D'ailleurs, il y a l'Europe qui impose l'arrivée de la concurrence, donc il faut savoir évoluer et s'adapter à la concurrence. Et c'est aujourd'hui toujours les mêmes explications. Hein, y a pas de... Et à chaque fois, la volonté de rassurer en disant « Mais non, ce n'est pas une privatisation. D'ailleurs, vous, les personnels, vous allez garder vos statuts. » Et puis, voilà, mais on sait qu'il y aura les étapes suivantes. C'est plus ou moins long, plus ou moins rapide. Mais quand même, GDF, EDF, GDF ont été... privatisés, ont été transformés en sociétés anonymes, plus exactement, puisqu'il s'agit aussi de ça pour La Poste. Hein, le projet de changement de statut, c'est une transformation en société anonyme. Et on nous avait dit, et Sarkozy avait dit à l'époque, qui était ministre des Finances, jamais EDF et GDF ne seront privatisés.
Il avait donné sa parole.
Il avait donné sa parole, il l'avait répété à sa façon. Et 2 ans plus tard, on parlait de la privatisation totale de GDF, c'est-à-dire d'une évolution où l'État devenait minoritaire à GDF par fusion avec Suez. Donc, quand aujourd'hui, à la Poste, donc on est un établissement public, un peu comme la SNCF aujourd'hui, le gouvernement et la Poste veulent nous transformer en société anonyme. Et même si l'État va être majoritaire au sein de la société anonyme, on sait bien, on nous a fait le coup avec France Télécom et avec GDF. On sait bien que l'étape suivante, c'est la privatisation totale de la Poste et le fait que l'État devienne minoritaire au sein du capital. Oui.
Le terrain est déjà bien préparé, parce que finalement, il reste combien de fonctionnaires à la Poste ? Pas tant que ça. C'est beaucoup de salariés de droit privé, il y a beaucoup de filiales.
Alors, je ne dirais pas qu'il n'y a plus beaucoup de fonctionnaires, parce qu'ils sont encore la majorité à la Poste.
C'est en quelle proportion ?
Ce qu'il faut savoir, il y a environ 60% de fonctionnaires et 40% de salariés de droit privé. C'est pareil. Donc, qui laisse en 90, annonce le maintien du statut de fonctionnaire, mais il y avait une clause dans la loi qui permettait l'embauche de salariés de droit privé et sur des tâches très spécifiques. Voilà, mais la loi n'a jamais été respectée et dès les premières années, la Poste a embauché des salariés de droit privé sur n'importe quelle fonction. Et c'est ce qui amène aujourd'hui...
Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut postuler pour un travail à la Poste, on a la possibilité encore d'obtenir un poste en statut de fonctionnaire ?
Non, du tout. En fait, depuis 2002, il n'y a pas eu de concours de recrutement de fonctionnaires. Donc, depuis 2002, avant, il y avait un recrutement mixte. Depuis 2002, il n'y a plus que du recrutement de salariés de droit privé.
Et du coup, dans le changement de statut, là, si la Poste passe du statut d'entreprise publique à celle de société anonyme, les fonctionnaires vont rester fonctionnaires ? Comment ça va se passer pour eux ?
Oui, c'est un peu comme pour France Télécom. France Télécom, il y a encore plus de la proportion de fonctionnaires est plus élevée qu'à la Poste, parce que France Télécom a tellement réduit l'emploi, c'est qu'ils ont réduit l'embauche. Et donc, voilà, et on a ce paradoxe, cette absurdité juridique de fonctionnaire dans une société anonyme, mais ça a été, le juridique ne fait pas tout, puisque c'était validé par le Conseil d'État à un moment donné, donc voilà. Mais l'idée de, alors, y compris à la Poste, le recrutement de fonctionnaires n'est pas interdit par la loi, y compris la nouvelle loi n'interdit pas le recrutement de fonctionnaires. Donc un jour, dans un rapport de force différent de celui d'aujourd'hui, eh bien, on pourrait à nouveau revendiquer et obtenir le recrutement de fonctionnaires sans changer la loi dans une société anonyme, ce qui est...
Alors du coup, si on revient un petit peu dans l'actualité, depuis le 27 septembre et jusqu'au 3 octobre, donc jusqu'à samedi, est organisée une consultation populaire. Qu'est-ce qu'elle vise exactement ?
Nous, ce qu'on a toujours dit à Sud PTT, c'est que le sort du service public, ça ne concernait pas seulement ça concernait les personnels au niveau de leur emploi, de leurs conditions de travail, de la conception qu'ils ont de leur métier, mais qu'ils sont très attachés au service public et à un certain type de service qui ne vise pas la rentabilité immédiate. Mais ça concerne aussi toute la population qui a accès au service public. Et donc, pour gagner, y compris pour construire des rapports de force, pour faire reculer le gouvernement, il nous semble qu'il faut allier la mobilisation des personnels et la mobilisation de la population. Bon, comment s'est née cette idée de référendum, de consultation populaire ? C'est que Bah, ça fait déjà plus d'un an maintenant que on parle de changement de statut de la Poste, de transformation en société anonyme. Et puisque ça a été annoncé en juillet 2008, et en juillet 2008, Sarkozy venait de faire un changement de constitution où il introduisait une clause qui permettait l'organisation d'un référendum sur les services publics, justement. Et donc, ça nous a donné l'idée, bah, puisque on institue ce type de référendum, bah, pourquoi pas une consultation, un référendum pour l'ensemble de la population sur la question de la privatisation de la Poste et du changement de statut. Alors, depuis, Sarkozy l'a oublié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi organique, il n'y a pas de décret pour appliquer. Et puis, au mois de juin dernier, au lendemain des élections européennes, l'idée de changement de statut, de loi, de projet de loi a été relancée, puisque, il y a plus de 60 organisations qui étaient réunies dans le Comité national contre la privatisation de la Poste, qui ont décidé de lancer une consultation populaire largement ouverte à toute la population, quelle qu'elle soit, qu'elle soit inscrite sur les listes électorales ou pas, pour manifester l'opinion de la population et exiger que le gouvernement renonce à ce projet de loi.
Moi, je voulais revenir sur un truc, sur justement ce projet de loi. C'est justifié par le fait qu'il faut augmenter le capital de la Poste de 3 milliards. Et sans cet apport de 3 milliards que ne peut pas fournir le gouvernement, d'après ce qu'on a compris, elle peut fournir à peu près 100 milliards pour sauver le système bancaire français quand il y a eu la crise des subprimes qui a compris impacté une série d'entreprises françaises. Enfin bon, c'est autre chose. Et ces 3 milliards, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ouverture du capital? Parce qu'il n'y aurait pas assez d'argent en interne, sur quoi c'est justifié et sur quoi vous êtes d'accord?
Alors, ce que recherche, tu as donné un peu la réponse, parce que effectivement, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement est capable de donner 100 milliards aux banques pour sauver le système bancaire et qu'il n'est pas capable de donner 3 milliards, c'est quand même pas grand-chose, 3 milliards à une entreprise publique comme La Poste. Alors, la direction de La Poste, elle, ce qu'elle recherche, c'est des capitaux pour se développer comme entreprise, comme une entreprise comme une autre, et non pas comme une entreprise de service public. Et en particulier, ils insistent beaucoup sur le fait de devenir le premier ou le deuxième, on ne sait pas très bien, ça varie, groupe européen, groupe postal, entreprise postale à l'échelle européenne. Donc, en fait, ils veulent se transformer en multinationale. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on prône. On prône la coopération entre ce qui était les services publics, ce qui est de moins en moins, y compris à l'échelle européenne, les services publics. Il s'agit pas de... en termes de services publics, c'est pas la concurrence qui améliore le service, c'est la coopération. Par contre, on ne dit pas que la Poste n'a pas besoin d'argent. C'est-à-dire que dans le contexte où la concurrence se développe de plus en plus, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des missions de service public de la Poste qui ont un surcoût par rapport à ce que pourrait être l'activité d'une entreprise privée qui écrémerait les marchés les plus rentables, et que donc il faut compenser les missions de service public, et on évalue ça à hauteur de 800 millions d'euros par an, ce que l'État est très loin de faire. Et ce qui serait autorisé par la Commission européenne pour... on n'aime pas forcément la Commission européenne, mais bon, il y a aussi les réalités. Le fait de financer le service public, c'est quelque chose qui est tout à fait autorisé. L'émission de service public, c'est quelque chose qui est tout à fait autorisé par les directives européennes. Simplement, il ne faut pas financer avec cet argent-là autre chose que l'émission de service public précise.
Groupe international, La Poste est présente sur de nombreux marchés dans le monde. C'est la force d'une grande entreprise.
18 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Chaque jour, c'est 300 000 personnes au service d'une seule, le client.
La notion de client, moi quand je suis rentré en 91, elle n'existait quasiment pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de mot joli pour dire usager. On dit public, on dit on fait ce qu'on peut, mais on ne trouve pas. Chaque fois qu'on disait usager, on était repris immédiatement par le chef d'équipe, par le chef d'établissement, par le directeur. Plus question de parler d'usager. C'était plus l'usager, c'était le client à qui il fallait vendre. Quoi.
C'était la première chose auquel ils se sont attaqués. C'était vraiment sur la terminologie. Et dès cette époque, c'était les anciens contre les modernes. Usager, c'était ringard. Voilà. Client, oui, c'était... Oui. Et c'était
donc Ornicard, nous sommes tous allés voter, pensant bien qu'à l'Assemblée on fait les lois pour l'équité. Où sont donc sur Ornicard les conjonctions dont vous parlez, car force est de constater que les portes sont bien fermées à clé. Barataclao, 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 barataclao. L'histoire se passe à notre insu, dans les salons les plus cossus, les décisions les plus values. Et tout ça finit dans la rue. On jette l'eau du bain avec l'ONU. Voici la GCS et toute la clique. Vous matez le service public. On dit qu'il est caduque, inique. Pour les libéraux les plus cyniques, tout passe par l'économique. Comme on dit qu'on connaît la musique, ils nous créent des sigles qui compliquent. Pour que le guidam n'y comprenne quick, tout ça finit par laisser quoi. Le temps est bien à l'argent roi. On dit que l'argent c'est du temps. On n'a plus le temps de prendre le temps. Mais où est donc Ornicard? Nous sommes tous allés voter, pensant bien qu'à l'Assemblée on fait des lois pour l'équité. Nous sommes donc sur Ornicard, les conjonctions dont vous parlez, car force est de constater que les portes sont bien fermées à clé. Barataclao,
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 barataclao. Il y a 48 heures, j'étais dans un bureau de poste nouveau, où on a installé le nouveau service. Wi-Fi, borne téléphonique nouvelle, distributeur de boissons, des développeurs photos, bon, et bien autre chose. Et il y avait trois jeunes qui étaient là, sur le trottoir, dehors. Je leur dis, tiens les gars, venez voir avec moi, on va rentrer dans le bureau de poste. Vous y venez au bureau de poste? Ah, ils me disent, monsieur, pourquoi faire, quoi, hein? Ben, ils disent, venez avec moi. Et on leur a montré le nouveau bureau de poste, ce qu'il y avait pour eux. Vous savez ce qu'ils ont dit en sortant? Respect la poste. Eh bien, voyez, ce genre d'expression, respect la poste, ça nous est allé droit au cœur.
Alors, Christian Cozard, l'un des grands ex-grands responsables de La Poste, dont on ne doute pas un instant que l'histoire qu'il vient de nous raconter était authentique. On est toujours donc avec Philippe Cornelis dans l'émission Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel. Et Philippe, qui est un responsable national de Sud PTT, on essaye de faire le point un peu sur, bah, sur qu'est-ce qui va se passer pour La Poste, puisqu'il y a dans les tuyaux la volonté de l'État de privatiser à travers une ouverture de capital. Mais en même temps, il y a une mobilisation relativement importante, on va en reparler après, qui en surprend quelques-uns, entre autres parce qu'elle n'était pas si bien partie que ça. Mais tu évoquais tout à l'heure la question de la concurrence et de la nécessité, pour, selon l'Union européenne, de voir les services de distribution du courrier mis en concurrence. Et quand on s'approche un petit peu, je ne sais pas comment tu vois ça, mais on se rend compte que les concurrents, en fait, sont la plupart du temps d'autres services publics postaux qui ont été privatisés ou qui sont en cours de l'être. Donc on invente une concurrence. Comment vous voyez ça?
Ce qui est clair, c'est que effectivement, ce sont les directives européennes qui progressivement imposent la concurrence sur la distribution des courriers. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, la concurrence sera totale au 1er janvier 2011, alors que Aujourd'hui encore, le courrier de moins de 50 grammes, c'est le monopole de la Poste. Bon, il y a des pays européens où c'est déjà totalement libéralisé, comme en Allemagne, mais en France... bon, et en Europe, de toute façon, la règle au 1er janvier 2011, c'est que tout soit ouvert à la concurrence. Alors, effectivement, on a constaté que c'était plus les premiers concurrents. Ça a été la Deutsche Post à travers une filiale ou directement. Ça a été TNT, qui est l'ancienne poste hollandaise, l'ancien service public hollandais, bon, qui a fusionné avec un opérateur australien. Enfin bon, il y a quand même une histoire, voilà, que c'est par certains côtés Royal Mail, qui est toujours une poste publique, parce que le gouvernement travailliste a finalement renoncé à privatiser la poste, au moins pour le moment. Voilà, alors. Il faut dire aussi que ce n'est pas, y a pas uniquement les opérateurs, alors les anciens opérateurs publics à l'échelle européenne. Par exemple, en France, le principal concurrent sur le courrier que risque d'avoir la Poste, c'est une boîte de distribution de pub, de ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, la PNA, la publicité non adressée, qui s'appelle Adrexo. Donc, qui est l'ancien Delta Diffusion, qui appartenait au groupe RTL. Non, donc voilà. Donc, Adrexo va pratiquer le dumping social, c'est-à-dire que les distributeurs de pub, ils sont pas payés, ils font plus d'heures qu'ils ne sont payés. Très clairement, il y a même une convention collective qui entérine ce fait. Et donc, alors, il faut savoir que la Poste a une filiale de distribution de pub qui s'appelle Mediapost, et que un jour Mediapost, y compris ils y réfléchissent quand même au niveau de la Poste, pourrait distribuer du courrier pour la Poste en sous-traitance. Voilà, c'est déjà le cas dans la distribution du colis, qui n'a jamais été sous monopole en tant que tel, ou le colis de la Poste, hein, distribué en tout cas en Île-de-France, il y a 20 à 30% du trafic qui est distribué par des louageurs, c'est-à-dire des entreprises avec lesquelles la Poste passe contrat, parfois au jour le jour, pour distribuer ces colis. Et évidemment, à celui qui fait le moins cher possible. Donc, ça se répercute sur les personnels et les conditions de travail des personnels, leurs conditions de rémunération, jusqu'à, dans la pub, à ce qu'on soit en dessous du SMIC, même si officiellement, bien sûr, tout le monde est au SMIC. Mais bon, dans la réalité du travail, ils travaillent en dessous du SMIC. Et on voit un certain nombre d'opérateurs se développer comme ça en Europe. En Hollande, il y a Sand, c'est ça, ils font travailler des retraités, déjà, bon, c'est payé au lance-pierre là, largement. C'était le cas en Allemagne, ils ont un peu renoncé parce qu'il y a eu une loi qui fixait un SMIC minimum en Allemagne dans la branche, hein, des activités postales, un salaire minimum. Et ça a été attaqué par les entreprises. Il y a eu une condamnation de la Cour de justice européenne. C'en est là. Mais bon, voilà, c'est aussi des pressions qui s'exercent sur à la fois... sur les personnels, les conditions de travail des personnels.
Parce que, évidemment, ce qui est mis en concurrence, c'est la distribution du courrier en zone dense. Et on voit bien que l'équité par rapport à la distribution du courrier sur le territoire est menacée par une telle mise en place.
Tout à fait. En fait... ça va fonctionner de la façon suivante, c'est-à-dire que des entreprises concurrentes vont prendre les marchés les plus rentables, donc plutôt les zones denses et plutôt le courrier des entreprises, et pendant ce temps-là, la Poste qui conserve et qui va conserver le service universel, c'est-à-dire l'obligation de distribuer partout le courrier, va être de plus en plus en difficulté pour être équilibré ou être rentable, parce qu'ils cherchent quand même à être très rentable, la Poste. Voilà. Et donc, ils vont sacrifier les missions de service public. Donc, ils envisagent de renoncer à ce qu'ils appellent le J plus 1, à ce qu'on appelle, nous, le J plus 1, c'est-à-dire la possibilité de recevoir le courrier le lendemain de l'envoi. Ils pourront, même si aujourd'hui c'est encore dans la loi, distribuer, ne plus distribuer que 5 jours sur 7 au lieu de 6 jours sur 7, une série y compris sur certains, parce que les entreprises concurrentes vont, les marchés qui vont prendre, c'est essentiellement les marchés du courrier publicitaire adressé, et ils envisagent de distribuer 3 jours par semaine ou 2 jours par semaine au même endroit, quoi. Donc la Poste petit à petit va s'aligner, le risque c'est que la Poste petit à petit s'aligne là-dessus, parce que, et ça, on nous justifiera ça par les besoins, ils ont commencé déjà à le faire, les besoins des usagers qui n'ont pas forcément besoin de recevoir leur courrier très rapidement, il y a le téléphone, il y a Internet, et puis et qui n'ont pas besoin de recevoir leur courrier tous les jours. Voilà.
Et cet argument-là, qu'est-ce que vous opposez ?
Bah, on pense que...
Vous qui êtes un archaïque, hein, quand même.
Ou, mais oui, on revendique l'archaïsme. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'il existe Internet, le téléphone, mais le téléphone n'a pas empêché le courrier de continuer à se développer, à augmenter en termes de trafic. Et même si, dans les années, avec la crise économique, il y a une certaine baisse du trafic, hein, qui est incontestable, on pense que le meilleur moyen de poursuivre la communication, enfin, et d'imposer le courrier comme mode de communication, c'est aussi que le service soit le meilleur possible. Donc, en tout cas, qu'il ne se dégrade pas par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a quelques années, vous pouviez, sur la même ville, recevoir le courrier sur Paris. Bon, il faut remonter à une trentaine d'années maintenant, mais vous postiez une lettre le matin, vous l'aviez l'après-midi dans votre boîte aux lettres. Ça a totalement disparu, mais c'est quelque chose qui existait. Donc là, voilà, ça c'est bon. Ça rendait un service à bas prix, parce qu'aujourd'hui, un chronopost en J plus 1, ça coûte nettement plus cher que le timbre poste à 0,56 euros, même s'il a augmenté. Et puis, ce qui est clair aussi, c'est que la concurrence... bon, on dit que la concurrence, ça va permettre la diminution des tarifs. Or, ce qu'on voit sur les services publics qui ont été privatisés, c'est que les tarifs, ils augmentent, que ce soit au niveau, en particulier, enfin, pour les particuliers. Il y a des grosses entreprises qui en profitent, hein, qui voient une baisse de tarifs, mais pour les usagers lambda, voire les petites entreprises, c'est une augmentation. C'est une augmentation des tarifs partout, que ce soit au niveau de l'électricité, au niveau du téléphone.
Oui, justement, est-ce que tu as des exemples concrets donc de services postaux qui ont été privatisés ? Je sais qu'on a parlé un peu de la Suède, donc c'est ce que tu expliquais. L'argument qui a avancé, c'est que la privatisation a amené une multiplication du nombre de bureaux de poste, le contraire de ce qui est en train de se passer en France. Mais en parallèle, justement, l'explosion des tarifs. Alors, est-ce que tu...
Non,
un peu des infos sur ce qui se passe
en Suède, le nombre de bureaux de poste a été divisé par 4.
Alors tu vois.
Donc, et puis, c'est le chemin qui est pris par la Poste française, hein, puisque il n'y a plus, enfin, il y a 500 bureaux de poste, plus de 500 bureaux de poste qui ont fermé depuis le début de l'année, qui sont remplacés par des services chez les commerçants et par des agences postales communales, mais ils ne rendent pas tous les services d'un bureau de poste. C'est un nombre de services restreint. Par exemple, en termes de retrait, c'est 150 euros maximum. Voilà, et encore pour les habitants de la commune et pas pour les gens de l'extérieur. Voilà, et l'objectif, pour être rentable, ils pensent que les bureaux de poste, ça leur coûte trop cher. Et donc, ce qui va se développer en France, et en tout cas les projets qu'ils ont et ce qui se développe à l'échelle européenne, c'est un nombre minimum de bureaux de poste. Donc, ils pensent qu'avec 3000 bureaux de poste...
Combien aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 10 000, un peu moins de 11 000. Ça suffirait. Et que le reste, c'est service en supermarché, en hypermarché ou en agence postale communale ou chez le petit commerçant, le bar tabac ou l'épicerie du coin. Sauf que dans les zones rurales en particulier, quand le commerçant y ferme, bah, y a pas de garantie. Et puis, ils commencent à penser que les agences postales communales, ça leur coûte trop cher parce qu'ils versent une indemnité aux communes. Donc, ils avaient eu un projet, là, il y a 6 mois, de refiler les bureaux de poste des zones rurales aux régions, de façon à ce que ce soit le contribuable qui paye, alors que la Poste n'a jamais été financée par le contribuable, contrairement à ce que beaucoup pensent. Leur idée, c'est de financer en zone rurale les bureaux de poste par le contribuable, finalement.
Et alors, comment ça se passe du côté des employés ? Comment est-ce qu'ils vivent un peu toutes ces restructurations ? Parce qu'en ce moment, on a particulièrement... on entend parler d'une entreprise anciennement du service public qui a quand même quelques soucis au niveau de son personnel. Et on veut bien entendre la déclaration de son président actuel qui parle d'un effet de mode. Néanmoins, nous, on se pose quand même plutôt la question des conditions de travail qui ont dû quand même brutalement changer pour les employés. On sait qu'à la Poste, depuis un certain temps, il y a des formations à la vente forcées avec la vente de produits pré-tarifés, assurés, et qu'il y a en plus des visiteurs mystères qui viennent dans les bureaux de poste vérifier que les guichetiers font bien leur travail de vente forcée et se contentent pas de rendre service aux gens, justement. Comment est-ce que les employés actuels expriment, enfin, comment vivent-ils plutôt ce type de restructuration ?
Bah, les restructurations, maintenant, elles durent depuis de nombreuses années. Ce qu'il faut dire, c'est que les employés, les personnels de la Poste le vivent mal parce que, bon, il y a le métier qui change. Hein, bon, c'est, par exemple, au niveau des guichetiers, se transformer en vendeur purement et simplement. Il y a beaucoup de guichetiers qui disent je ne suis pas rentré à la Poste pour ça. Voilà, alors après, il y a des adaptations qui sont plus ou moins bien vécues. Ce qui est sûr, c'est que les restructurations s'accélèrent, c'est-à-dire que les gens ont l'impression, y compris il y a des collègues qui nous disent mais on est déjà privatisé. On a connu un certain nombre de restructurations mauvaises qui ont dégradé les conditions de travail. C'est-à-dire qu'on nous parle de modernisation, mais en même temps, ce que ressentent beaucoup les agents, c'est une intensification du travail, y compris pour ce qui concerne les services du courrier, par exemple, une intensification physique du travail en termes d'augmentation des cadences, de réduction des temps de pause, des temps morts qu'il pouvait y avoir ici ou là. C'est une pression sur les objectifs commerciaux pour ce qui concerne les guichetiers ou les vendeurs, encore pire, les vendeurs, y compris des objectifs totalement démesurés par rapport à la réalité et à ce qu'il est possible de faire. Et que, donc évidemment, ça nourrit le malaise des postiers, mais au fur et à mesure, on s'aperçoit que ça va de plus en plus vite. Et c'est un peu ce qu'a connu France Télécom. C'est des restructurations de plus en plus rapides où à peine une restructuration faite, il y en a une autre qui débute. et des difficultés de reclassement des personnels de plus en plus difficiles. C'est-à-dire que le président de la Poste, il y a quelques années, quand il a lancé la vague de restructuration actuelle, il avait promis un poste dans les 30 km, au moins dans les 30 km. Aujourd'hui, la Poste est en train de réfléchir à autre chose. Et donc, à faire comme à France Télécom, peut-être imposer des mobilités forcées à 50, 60, 100 km de chez soi ou d'un bout à l'autre de l'Île-de-France. Alors, évidemment, ce qui se passe à France Télécom, ça les fait un peu réfléchir. Là, il y a le directeur général qui vient de réaffirmer qu'il y aurait un poste dans le rayon de 30 km, mais... C'est tellement difficile à trouver un poste pour les agents vu le nombre de suppressions d'emplois que ils vont essayer autre chose. On voit aussi des gens, des cadres qui sont reclassés sur des positions d'exécution. Donc des gens qui ont fait leur carrière dans l'entreprise qui se retrouvent guichetiers. Il y a même eu quelques cas où ils ont proposé des postes de facteurs. C'est-à-dire... À la Poste, le bas de l'échelle en termes de salaire et de... Alors, ils ne changent pas le salaire des gens, mais bon, c'est... Mais bon, c'est un peu bloquant pour la carrière, d'une part, pour ceux qui veulent faire carrière. Et puis, les gens se sentent totalement dévalorisés. Ils reviennent en arrière. Quoi. Bon, ils reviennent au boulot qu'ils ont fait il y a 15 ans, 20 ans.
Il y a eu une évolution ou dégradation depuis 90-92 avec il y a eu les méthodes Brasma, toutes ces histoires-là et tout ça. Mais ça, toi, tu l'as connu la méthode Brasma?
Ouais, j'ai connu.
Et tu te rappelles, c'est bonjour.
Bonjour, regard.
Attention.
Attention.
Et sourire.
Sourire et puis merci.
Merci. Voilà. Au revoir.
Et ben voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et Sophie, on est ce soir avec Philippe Cornelis.
Oui, alors Philippe, parle-nous un petit peu de la mobilisation là, qui est en train de se faire donc, contre la privatisation de la Poste. On a évoqué tout à l'heure cette votation citoyenne sur la privatisation qui se met en place. Alors explique-nous un peu déjà concrètement comment ça se passe, où ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire.
Ah, ce qui est... En fait, je vais avoir bien du mal à répondre à la question parce que...
On t'a invité pour ça, hein, en même temps. ça serait sympa que tu y arrives. Hein.
Non, c'est parce que... Donc, ça a été décidé au mois de juin avec la relance du projet de loi. Il y a eu les vacances. Juillet-août, ce n'est pas une période où les militants se rencontrent et tout. Et on s'est retrouvés début septembre avec pas grand-chose, en se disant « Oulala, comment on va faire ?» On va droit dans le mur. Et en même temps, cette votation citoyenne, on voulait l'organiser assez rapidement parce que le projet de loi risquait de passer au Sénat au mois d'octobre. La surprise, c'est que ça prend. Ça prend parce qu'il y a beaucoup de municipalités en particulier essentiellement des municipalités de gauche qui vraiment se sont investies pour appuyer l'organisation de la votation citoyenne, que tous les partis politiques de gauche, je dirais sans exception, appuient la votation citoyenne, et que globalement, je parlais de plus de 60 organisations, entre les organisations syndicales et les associations, il y a beaucoup de monde qui s'investit, y compris des fois des associations dont on n'aurait pas idée, des associations de boulistes, des associations de chants, voilà.
Toute la vie locale, quoi.
Voilà, des associations d'intérêt local. Donc aujourd'hui, ça se développe et on a du mal à suivre le nombre de communes où ça se fait parce que les gens décident et des fois, on a des coups de téléphone. « Ah, je voudrais organiser une votation dans ma commune. Comment je fais ?» Alors, c'est soit un élu, soit un simple citoyen qui voudrait s'adresser à son maire pour organiser, qui demande des détails. Et donc, on est y compris Donc sur la carte du site
appel pour la poste.fr
où on met les points, les bureaux de vote et tout, je pense qu'on est très en retard par rapport à la réalité, y compris il y a des gens, là où ça s'organise, il y a des gens qui du jour au lendemain organisent, ah tiens, il y a tel endroit où il y a du monde, on va organiser notre votation à cet endroit-là. Alors, ça se déroule donc sur la semaine, donc voilà. Ça a commencé le week-end dernier. Et puis, les militants, les collectifs qui existent contre la privatisation et les municipalités fixent leur point de vote. Ça s'organise même dans des municipalités de droite où la municipalité n'organise pas du tout la consultation citoyenne. Et puis, samedi 3 octobre, donc ça sera un point fort où il y aura le maximum de lieux de vote. Alors, les marchés, les bureaux de poste, les mairies, les écoles dans un certain nombre de municipalités. Et puis, plus généralement, là où les gens ont jugé, les militants ont jugé qu'il y avait du monde et que c'était intéressant. Peut-être, voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est assez difficile. Alors, on a beaucoup de questions, donc on dit aux gens d'aller sur le site appelpourlaposte.fr pour regarder, mais on pense que c'est pas totalement à jour et qu'il y aura d'autres points de vote et que, voilà, et donc on dit aussi aux gens, s'il n'y a rien dans votre commune, eh bien, vous pouvez aller à côté, quoi. Bon, voilà.
Oui, parce que du coup, c'est pas un vote, c'est pas un référendum officiel organisé par l'État.
Surtout, y compris le gouvernement et la direction de la Poste vont contester les résultats du référendum.
Quel sera le poids suivant le nombre évidemment de signatures, poids, mais ça ressemble à une pétition géante qui doit du coup faire pression. Est-ce que ça va amener sur un référendum officiel?
L'idée, c'est de provoquer un débat public tel que ça oblige le gouvernement à renoncer à son projet. Alors, ça sera pas. On est habitué à ce que ce gouvernement ne réponde pas aux vœux de la population et s'accroche à ses projets. On verra. Ce qu'on sait, c'est que ça provoque des contradictions, la montée de cette opinion publique qui va dans les bureaux de poste pour demander où est-ce qu'on vote. c'est clair que c'est pas la direction de la Poste qui va organiser le fait que les élus soient interpellés par les citoyens pour dire quand est-ce que vous organisez la votation citoyenne, où est-ce que ça se passe, parce que il y a un vrai élan un peu, moi ça me fait penser quand j'écoute et ce qui se dit, ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé au moment du référendum sur la Constitution européenne où le non avait gagné, voilà. Donc
sauf que quand même sur ce référendum, il y avait un matraquage médiatique de tous les médias qui en parlaient abondamment, et là la presse bourgeoise quand même reste assez discrète sur cette consultation.
C'est pas mal médiatisé quand même maintenant, y compris il y a une communication mensongère de la Poste ou du gouvernement où ils racontent un peu n'importe quoi. Par exemple, c'est le ministre de l'Industrie qui parle de 6 milliards de déficit de la Poste, alors que c'est 6 milliards de dettes. Donc, le monsieur connaît énormément le dossier, quoi. Bon, pour le ministre, en responsabilité du projet de loi, c'est un peu un problème. Mais globalement, ce qui nous semble, c'est que sur les marchés, lorsqu'on leur parle de la votation citoyenne aux gens, il y a de plus en plus de gens qui nous disent « Ah ben, on est au courant ». Et le fait qu'ils se présentent dans les bureaux de poste spontanément, là où il n'y a rien d'organisé, par exemple, c'est aussi un indice que l'idée en train de faire le tour, alors par le bouche à oreille, par les médias, par les tracts qui ont pu être distribués, etc. Il y a vraiment un mouvement réel. Alors l'ampleur, on verra au lendemain du 3 octobre, mais je pense que de toute façon, ça va poser problème politique au pouvoir. Alors, il faudra peut-être prendre d'autres initiatives derrière pour prolonger la mobilisation qui sera exprimée autour de la consultation du 3 octobre. Mais...
Alors, bon, a priori, le non risque de l'emporter. Hein. J'ai fait un sondage auprès de mes 5 meilleurs amis. Ils m'ont tous dit qu'ils voteraient non. Mais alors, votre objectif, c'est quoi ? Plutôt un score chiracien autour de 80-82% ou un score à la Ben Ali en Tunisie autour de 99,8-99,9%?
Tout le monde est invité à voter, y compris, bon, mais ceci dit... c'est une consultation populaire à l'initiative de militants, c'est pas un référendum officiel, donc on se doute bien que la majorité des noms, que les noms auront une majorité écrasante. Je crois que l'enjeu par contre, c'est qu'il y ait une participation maximum à cette consultation populaire, et l'enjeu c'est le maximum de votants, et j'incite tout le monde même à distraire un moment de sa journée du samedi pour essayer d'aller voter quelque part, n'importe où, là où ils sont, même s'ils ne sont pas sur leur lieu d'habitation. Ils sont peut-être en congé quelque part ou en week-end quelque part où il y a une consultation populaire d'organiser, et ils ont la possibilité de voter là.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, on était cette heure-là avec Philippe Cornelis de Sud PTT pour nous parler donc de cette votation citoyenne au sujet de la privatisation de La Poste. Et l'émission tire à sa fin.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Allez, voilà. Quand on est à Dumont, on fait de l'ouvrage. 1, 2, 3, 4... 5, 6 pour faire une émission. Si Christian Cossard voyait ça, on aura le droit à un plan de réorganisation avec du nouveau mobilier et surtout une baisse drastique du personnel à la clé. Ce soir, donc, pour transformer cette émission en société anonyme à responsabilité limitée, autour des micros, autour des boutons et avec la bouche et avec les doigts, on retrouvait pour distribuer les colis en zone dense Sophie. Pour assurer le service universel postal, il y avait Guillaume. Pour lécher les timbres, il y avait Aude. Et dans le rôle du visiteur mystère des bureaux de poste, on retrouvait Raphaël. Il y avait aussi Alex. Il y aura bientôt Claudie et Claudia, puisque Antanane arrive. Ciao.